La matinale estivale sur RCN, Hélène Ingré.
Bonjour auditrices et auditeurs de cette matinale. C'est une matinale coucou. En effet, à l'instar du coucou, cet oiseau qui va pondre ses œufs dans le nid d'un autre, cette matinale estivale se glisse dans Dialectique, animée par Lionel Courchinou, qui recevait le 14 octobre 2022 Étienne Augris. Et justement, cette émission Dialectique ainsi que cette matinale que j'ai intitulée « Les musiques apprenantes » se trouve en podcast sur www.rcn-radio.org. Et bien à présent, nous laissons la parole à Lionel et à son invité qui va nous expliquer comment les musiques peuvent concourir à la culture générale.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi. Et puis, comme vous le savez, le générique de Dialectique, c'est Nina Simone. Vous verrez, il y a un lien avec notre sujet du jour qui est « En lutte, carnet de chant ». Ce livre, je le pointe à la caméra juste là, qui est disponible depuis le 29 septembre dernier. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, pour la première fois dans notre émission Dialectique, Étienne Augris. Comment vas-tu ?
Eh bien, très bien. Surtout quand j'entends Nina Simone, ça m'évoque plein de samples.
Lesquels ?
Je pense à Abd al-Malik en particulier.
Ouais. Sur le détroit de Gibraltar.
Effectivement, cette chanson intéressante, qui est très intéressante dans le cadre, pourquoi pas, des luttes, ou en tout cas pour parler de sujets importants, et aussi pour entendre de la bonne musique.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, tant de fois samplé par Common, notamment, aussi par Kanye West, et j'en passe. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ce bouquin, En lutte, carnet de chant, que tu as coécrit avec Julien Blottière, Jean-Christophe Diedrich, pardon, et Véronique Servat. Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Eh ben, c'est tout simple. Avant d'écrire un livre, on est parti de notre métier, qui est d'être professeur d'histoire-géographie. Donc, on est tous les quatre professeurs depuis maintenant quelques années. Ça se compte même presque en décennies. Et puis, en fait, on a commencé d'abord à travailler à distance, sans se connaître véritablement, parce qu'on s'est aperçu qu'on faisait un peu tous la même chose. C'est-à-dire qu'on connaît le pouvoir de la musique pour transmettre des choses et pour comprendre des choses. Et en fait, dans nos débuts, on a essayé de développer cette idée-là que par la musique, on peut toucher certains élèves, on peut leur faire comprendre des sujets complexes, et puis tout simplement, on peut leur faire aussi découvrir des musiques ou leur faire redécouvrir des choses qu'ils pensent connaître et qu'ils connaissent pas forcément ou dont ils connaissent pas forcément l'histoire. Et donc, c'était un petit peu ça notre point de départ. On a créé un blog qui s'appelle Lisiobox, qui continue à fonctionner depuis je sais pas combien d'années, peut-être plus de 10 ans.
4 millions de pages visitées.
Ok, ben tu me l'apprends, je savais pas. On a commencé ça il y a un peu plus de 10 ans, et l'idée, c'était une chanson pour aborder un aspect du programme d'histoire-géographie. Donc on enseigne pour les uns en collège, pour les autres en lycée. Et puis avec le temps, il y a pratiquement 500 chansons qui sont étudiées. Donc ça fait une belle ressource qu'on met à disposition aussi de nos collègues. Donc ça, c'est le point de départ, c'est explorer à la fois l'histoire, mais aussi la dimension spatiale, c'est-à-dire comment aussi les musiciens vont s'inscrire dans un espace local, dans un lieu, dans un contexte, et que ça, c'est fondamental pour comprendre la musique. Donc ça permet d'introduire aussi de la géographie. Et puis de fil en aiguille, on a cette idée depuis très longtemps de produire un livre. Qui puisse prolonger quelque chose peut-être d'un petit peu plus abouti, d'un petit peu plus travaillé, et puis de fil en aiguille, par l'intermédiaire de Véronique Servat, qui enseigne à Montreuil en région parisienne, les éditions du Détour nous ont proposé de faire un carnet de chant en lutte, ce qui est un des aspects importants de l'IGEOBOX.
Alors, vous êtes prof tous les quatre en lycée ou en collège. À qui s'adresse ce livre? Est-ce qu'il s'adresse à vos élèves, justement? Est-ce qu'il s'adresse aussi aux parents? Est-ce qu'il s'adresse aux professeurs ou tout simplement aux aficionados, aux fans d'histoire et de chant, ou même peut-être même aux néophytes dans ces domaines-là?
Je pense qu'il y a, d'entrées possibles dans ce livre. Il y a des personnes qui vont, qui connaissent très bien certaines chansons et qui vont peut-être apprendre 2-3 choses, mais pas fondamentalement. Donc, je pense que, c'est parti des jeunes et de comment on veut les intéresser à la musique et à l'histoire. Maintenant, évidemment, ça nous arrive de travailler avec nos élèves directement sur le blog. Mais évidemment, notre premier public, c'est d'autres professeurs qui vont pouvoir utiliser ces ressources. Ou alors, tout simplement, des parents. Alors, je suis pas certain que les jeunes vont... ont le même rapport que notre génération ou la génération qu'on représente ici au livre, mais ça peut être aussi une manière on peut lire ce livre-là de manière on peut se dire tiens, je lis une notice sur une chanson, c'est 3-4 pages et puis ça n'implique pas d'avoir à se dire oula, c'est un livre, je vais pas y arriver, etc.
Un peu de donc, façon c'est... sporadique comme certains jeunes consomment aujourd'hui le stream ou Netflix ou d'autres types de plateformes, quoi.
Par exemple, hein, on a conscience que ce format-là évidemment il est différent. Mais je dirais que notre premier public c'est pas forcément les plus jeunes, mais c'est peut-être pour donner justement des clés à des personnes qui voudraient travailler avec ce matériau. Et puis après il y a la thématique elle-même en lutte qui s'adresse plutôt à des gens qui font de la musique un instrument. C'est peut-être pas un hasard, c'est sans doute un hasard, mais ça nous a fait sourire que le livre sorte un jour de manifestation et de grève. On s'est dit tiens, sans doute c'était un petit clin d'œil intéressant pour ça.
Et l'histoire est très forte pour ce genre de clin d'œil. Pourquoi avoir justement choisi de parler d'histoire et de musique par le prisme de la lutte?
Alors, il se trouve que, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire passer par la musique. On n'est pas obligé d'être révolutionnaire, on n'est pas obligé de remettre en cause le monde dans lequel on vit. Et on peut trouver des chansons très, très conservatrices et très réactionnaires. Mais je pense qu'elles passent moins bien leur époque. C'est-à-dire que si on écoute des chansons qui ont 40 ans, 50 ans, on se dit qu'elles n'ont pas bien vieilli. Parce qu'elles portent un message peut-être justement de crispation ou de réaction par rapport à une situation. Alors, on essaie d'utiliser ça aussi dans l'IGEOBOX. Par exemple, je vais donner un exemple, tant pis, je me fâche avec les fans de Sardou, mais...
Le temps béni des colonies.
Voilà. par exemple, ils ont le pétrole. Donc, on essaie de travailler aussi sur des chansons qui sont un matériau différent, qui mettent en avant un message différent. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la manière dont la musique va aider à faire avancer un combat, à faire avancer une lutte, à porter de manière collective. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans la musique, une dimension collective qui est fondamentale. On peut écouter de la musique tout seul chez soi et c'est super sympa, mais il y a des musiques qui portent le collectif. Et donc, c'est aussi en lien avec notre éditeur, les Éditions du Détour, qu'on a développé cet aspect-là d'un carnet de chants, un petit peu donner des éléments pour comprendre ces chansons qui parfois ont perdu leur signification de lutte. Je sais pas, la Marseillaise, Bella Ciao par exemple, évidemment. Bella Ciao, c'est devenu un objet culturel à la mode, et c'est parfois bien repris ou parfois, je vais pas donner de nom pour le coup.
Je vois,
mais effectivement, on a ces chansons-là qui sont devenues des produits commerciaux et qui ont une véritable histoire de chant de lutte. Donc, c'est un des intérêts de certaines des notices, c'est d'éclairer cette histoire en sachant qu'il n'y a pas de... je ne dis pas ça pour dire que ce n'est pas légitime, mais c'est pour rappeler aussi le parcours. Et la Marseillaise, par exemple, la Marseillaise aujourd'hui n'a pas la même signification et on ne le prend pas comme un chant de lutte aujourd'hui. On démarre le bouquin par ce chant-là parce que, dans sa création, c'est véritablement un chant de lutte dans un contexte bien particulier.
Il y a aussi, pour agrémenter cette lecture, des illustrations d'Agatha Friedrich. Donc pourquoi avoir choisi d'y intégrer des dessins?
Alors, je suis mal placé peut-être pour répondre à cette question parce que c'est pas forcément nous qui l'avons introduit. Mais voilà, les illustrations mettent en avant des personnages un petit peu. On voit des barricades, on voit des
tambours.
Des tambours, des sans-culottes. Donc, c'est très ancré, j'ai envie de dire, plutôt dans les luttes du 19e siècle en particulier. Le 19e siècle, c'est presque la moitié de l'ouvrage. Ce qui veut dire que, alors on a aussi des chansons plus récentes, mais c'est vrai que c'est vraiment le siècle des luttes aussi par rapport à ça. Donc c'est des luttes compliquées et sanglantes. Donc les dessins, me semble-t-il, illustrent ça. Alors il y a un petit clin d'œil aussi, alors il y a quelques cocktails Molotov qui sont plus récents, et il y a un petit clin d'œil aux Anonymous avec le masque de Guy Fawkes qui fait référence aussi à des mouvements un petit peu plus récents. Mais ce masque lui-même, il a une histoire passionnante, qui remonte jusqu'au XVIIe siècle en Angleterre. Donc, on voit, en fait, même les images ne sont pas là par hasard.
Il y a quelque chose d'éminemment politique, bien sûr. À travers ces chants et ces luttes. Et ce sont des combats politiques, comme tu le disais, qui traversent le temps. On a l'impression que l'émancipation, elle est perpétuelle, que l'histoire un peu tourne en rond.
Je ne sais pas si ça tourne en rond. Il y a des choses pour lesquelles on a l'impression que ça patine. Je pense pas. Je pense que si on vivait, toi et moi, au début du 19e siècle, on se dirait que la vie est compliquée. Et peut-être que ça aussi, c'est un... c'est peut-être contradictoire ce que je vais dire, mais il faut aussi mesurer le chemin parcouru. Et peut-être que ces luttes et ces personnes qui ont... composées, certaines d'entre elles ont été obligées de s'exiler, je pense à Jean-Baptiste Clément qui a écrit Le Temps des Cerises, ses chansons lui ont valu la prison, donc il a dû partir, sans même parler, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de Godard, Moses ou des chansons comme ça qui impliquent une prise de risque. Donc effectivement, il y a un fil conducteur qui est cette lutte continue avec des formes de progrès, mais aussi il y a bien sûr des retours en arrière qui se produisent. Et ce qui est intéressant, et c'est peut-être, je reviens à ta question, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va pouvoir réutiliser un chant ou une chanson à différentes époques pour des temps différents d'une lutte. Il y a une chanson en particulier sur des ouvrières qui mettaient les sardines en boîte à Douarnenez. Elles vont le chanter à plusieurs reprises dans le cadre de leur grève à 20 ans d'écart. Donc c'est des choses qui sont réutilisées, réinvesties. Et pour reprendre ce qu'on dit tout à l'heure aussi, c'est chaque génération qui va réutiliser ou pas ces chansons-là. On parlait tout à l'heure de Bella Ciao. Voilà. Il y a un retour de Bella Ciao qui doit faire plaisir à certains, même si la signification n'est plus la même.
Donc chaque époque, finalement, s'approprie les paroles et puis la signification des chansons en fonction des luttes qui dépendent en fait du contexte, quoi.
Oui, c'est ça. Et en même temps, je pense que la plupart des chants très connus qui sont dedans, on connaît une partie des paroles. On connaît, je sais pas, la Marseillaise, par exemple, on va connaître, ou d'autres, on va connaître le refrain et puis un couplet. Et puis, en fait, on connaît pas forcément le reste. Donc, c'est ça aussi, ce qu'on a voulu faire, c'est commencer par les paroles pour aussi... insister sur leur complexité, sur le sens qu'elles ont, et parfois c'est un sens très caché. Et ça c'est une des choses difficiles quand on étudie la musique ou la chanson, c'est que parfois on n'a plus les codes, on maîtrise plus les codes. On entend ça et pour nous ça veut pas dire la même chose, et donc ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire on va se réapproprier, et peut-être il y a une phrase dans la chanson qui va nous parler, qui va évoquer un combat présent qui n'est pas forcément celui qui est évoqué dans la chanson précédemment.
Et en dehors du travail ou en complément même du travail de sélection minutieux de ces chansons-là, il y a surtout un travail de contextualisation, d'analyse historico-politique de ces chansons-là, et c'est ce qui va donner, pour moi, pour ma part en tout cas, de la consistance à ce livre-là. C'est qu'il y a une vraie forme d'exégèse, on va dire, de ces textes-là.
Oui, c'est vrai que je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on peut apporter. Alors, on a notre regard, il y a des chansons qu'on aime aussi, et donc on en parle d'autant plus volontiers. Mais effectivement, ce qui nous semble important, c'est de comprendre une chanson dans son contexte, et ensuite de voir comment les usages ont évolué avec ces contextes. Donc c'est vrai qu'on a, c'est notre métier aussi, on n'est pas, en même temps, on n'est pas spécialisé sur telle ou telle période, parce que par définition, on enseigne des périodes différentes, mais on insiste là-dessus, évidemment, en classe, quand on utilise une chanson, on essaye d'insister là-dessus, donc ça peut être la Marseillaise. Ça m'arrive, pour donner un autre exemple différent, ça m'arrive d'utiliser Medine, par exemple, quand il fait sa chanson Alger pleure, qui est créée dans un autre contexte, mais dans lequel c'est le contexte de... Alors c'est 2012, donc c'est l'anniversaire de l'indépendance. Donc à la fois, il parle du passé, mais il dit aussi des choses sur le présent et sur les problèmes qui demeurent par rapport à cet événement passé. Donc c'est vrai que les contextes sont toujours très importants et c'est là-dessus qu'on essaye aussi d'apporter des choses.
Et au début de ce livre, donc on a la Marseillaise, c'est le premier chant, et très très vite, on a le départ des Poissardes de Paris pour Versailles. Et ce que j'apprécie dans ce livre, c'est qu'à chaque fois, il y a des sous-titres. Et y allons donc, fait mouvoir le talon. Qu'est-ce que cette chanson raconte ?
Alors, c'est marrant cette chanson parce que là aussi, ça nous ramène à l'actualité. Je ne sais pas si t'as vu que Jean-Luc Mélenchon a parlé du 5 et du 6 octobre 1789. Et c'est précisément la journée dont parle les deux journées dont parle cette chanson. Donc, je ne prétends pas donner des éléments de compréhension à Jean-Luc Mélenchon. Mais effectivement, cette chanson, en fait, elle nous parle... Alors, le sous-titre, « Et y allons donc, fait mouvoir le talon », c'est un extrait des paroles.
Hein, bien sûr.
C'est
une forme de refrain, quelque chose
C'est une invitation à bouger pour... Donc, ces poissardes, ce sont des... En fait, la poissarde, sous la Révolution, c'est la femme du peuple. Elle incarne à la fois ce que la femme du peuple peut avoir d'inconfortable pour le bourgeois ou pour la haute société, et en même temps elle incarne une certaine sagesse populaire.
Mais j'ai appris à travers ton livre que ce mot vient de poisson.
Voilà.
Notamment.
Alors ça peut être poisson ou ça peut être poisseux, c'est-à-dire que et sans doute les deux viennent de la même racine. Donc ces femmes-là, voilà, ce sont des marchandes de poissons. Elles travaillent au hall. Et puis elles sont aux premières loges pour voir qu'il y a des choses qui vont pas, et en particulier, et ça nous ramène à la situation actuelle peut-être, le prix du pain et le prix des denrées. Et quand on dit le pain à l'époque, c'est la base de l'alimentation. Donc ces femmes-là, elles sont motivées par des considérations peut-être matérielles, mais il y a aussi une dimension politique très forte. Et donc elles décident qu'il faut aller à Versailles, où se trouve le roi, pour chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire le roi, la reine et le dauphin. Et c'est quelque chose ça fait partie des habitudes. Elles ont l'habitude d'aller à Versailles pour célébrer la naissance du dauphin. Donc elles connaissent un petit peu le chemin. Et en fait, au cœur de tout ça, c'est la rencontre entre le roi et le peuple. C'est la première fois que Louis XVI rencontre directement le peuple. Et c'est les femmes qui jouent ce rôle-là. Donc nous, ça nous a intéressé aussi, parce qu'un des fils conducteurs de ce livre, c'est aussi les luttes des femmes. On a voulu mettre en avant, et on le retrouve à plusieurs époques. Et là, pour le coup, on a les femmes qui mettent un peu de côté les hommes, qui leur disent « Non, ben, on sait qu'on connaît Versailles, on va vous montrer. » Elles mettent de côté ces gars qui veulent prendre le dessus, et elles mènent elles-mêmes leur propre combat. Et en fait, c'est un tournant politique, puisque le roi, au lieu d'être à Versailles, il est désormais à Paris, aux Tuileries. Donc voilà, on est à la fois dans cette lutte très sociale, très économique, mais avec une dimension politique forte et un rôle des femmes important. Donc après, voilà, les paroles sont assez, moi je trouve, assez rigolotes. Il y a des références à leur vie quotidienne, à la manière dont ça se passe. Et puis, il y a ce personnage-là des Poissardes qui incarne quelque chose.
C'est vrai que dans ce livre, on parle de révolution à travers le combat des femmes. Ça part de cette fameuse chanson, le départ des Poissardes de Paris pour Versailles, que je ne connaissais pas. Angèle, balance ton quoi ? C'est-à-dire qu'on a une forme d'esquisse comme ça du féminisme qui passe par aussi d'autres artistes qu'on va mentionner dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a aussi là, on peut y voir un écho avec ce qui se passe aujourd'hui en Iran, par exemple, où ce sont là aussi des femmes qui prennent le devant, même si le combat n'est pas n'est pas le même. Là, il y a un combat pour la survie. Hein. Elle parle du pain, de la viande. Et de l'autre côté, c'est un combat aussi pour la survie, mais plus pour la liberté, les libertés individuelles de porter ou pas le voile.
Alors, le lien, il est, bon, évidemment, le lien, c'est la peut-être que la position des femmes dans une société reflète aussi la bonne santé de cette société. Et clairement, les femmes iraniennes, mais je remarque qu'elles sont aussi soutenues par beaucoup de jeunes hommes, et que c'est sans doute ça qui est intéressant dans ce qui se passe. Je note aussi que tous ceux qui expriment par des chansons, et il y en a en Iran, il y a un artiste dont je me rappelle pas le nom, mais qui a été emprisonné pour des chansons. Donc on voit comment la chanson peut aussi servir dans ce contexte-là. Et évidemment, la lutte des femmes, alors pour rejoindre notre interrogation tout à l'heure, elle a progressé. Hein, on n'est plus dans la même configuration. Mais en même temps, chaque génération met en avant ça. Et c'est un petit peu ça qu'on a voulu faire, c'est montrer à chaque génération, du féminisme. Donc là, il y a en particulier une chanson qui est un peu l'hymne de Boules et Femmes, l'hymne du MLF, qui est un peu la deuxième génération du féminisme, celle qui commence à revendiquer la liberté des femmes dans le contrôle de leur corps. Donc là, on est plutôt dans les années 60-70. Mmh. Et puis avec Adèle, on est effectivement Angèle, avec une autre artiste. Avec Angèle, on est plutôt dans le combat post-MeToo et dans ce bouillonnement qui est très intéressant et dans lequel la chanson joue aussi un rôle très important.
En tout cas, le lien qu'on peut y voir, ce sont les femmes en avant-garde, au front, en tout cas, dans cette espèce de révolution, dans une forme de manifestation pour des droits au final, quoi.
Oui, et puis je dirais que la difficulté quand on étudie l'histoire par rapport à la place des femmes, c'est que on peut dire, et certains historiens le faisaient pendant longtemps, en fait, on ne parle pas des femmes parce qu'elles n'ont rien fait dans l'histoire. En fait, plus on cherche, plus on trouve ce genre de choses. Hein, et tu as dit que tu ne connaissais pas la chanson, moi je ne la connaissais pas non plus avant de commencer à me plonger un petit peu là-dedans. Et ben voilà un exemple d'une sorte d'invisibilisation des femmes, non pas qu'elles n'aient rien fait, mais qu'elles ont un peu été marginalisées aussi dans la manière dont l'histoire a été écrite. Et je pense que la chanson permet ça aussi d'offrir un récit alternatif pour ce qu'on pourrait appeler des invisibles ou des minorités ou des marginaux. La chanson et la musique sont un moyen privilégié pour eux de continuer à s'exprimer et de transmettre des choses, de transmettre des combats.
Et ce n'est pas l'apanage uniquement de notre société occidentale, c'est aussi un message qui s'adresse à la jeunesse du monde. Et tiens, Jeunesse du monde, c'est le titre de Kenny Arcana qu'on va écouter tout de suite sur RCN.
Responsable devant ce qui se passe. Il faudrait qu'ils se disent, ça peut commencer par
qualité, justice pour tout le peuple du monde. Partage équitable de toutes les richesses.
Et tout ça ne se peut par la lutte.
J'aimerais monter les uns contre les autres. Mais si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples contre les ordres. Enfants du siècle, avançons le point levé. Jeunesse et peuple du tiers-monde, nous marcherons à tes côtés. Ta lutte est la nôtre, tout comme notre lutte est la tienne. Justice et liberté pour tous les habitants de la terre. Sèche tes larmes et relève la tête. On est badaille, le combat nous attend. Toi sera le premier champ de bataille.
Résistance.
On a dit non, on a le nombre. Jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays. Marginal des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir? Mon rap prône l'insurrection, car plus question de laisser faire. La lutte est nécessaire, en d'autres termes, ils veulent nous baisser.
Contre la dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus. Jeunesse du tiers-monde, nous partageons ta douleur. Vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs, ajoute la tienne. Là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, à nous de cramer leur enclos.
Résistance,
à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes.
Résistance,
à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes.
Résistance,
à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes.
Résistance,
à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes.
On est tous menacés, système capitaliste n'est qu'un prédateur. Regarde dans le monde ce qu'il réalise, des génocides lorsque les peuples ne veulent pas quitter leurs terres pour les vendre à des grosses compagnies, grands frères, des militaires, chantage gouvernemental. En Occident, ils nous perdent le mental avec leur obsession du rentable. Ne connaissent pas l'amour, juste l'argent avec un grand A. Faites pas la paix, mais la guerre, c'est prolifique pour la vente d'armes. Ils ne voient que leurs avantages. Compagnons, faut qu'on s'active, regarde leurs nuages. Ils en tombent du sang radioactif, leur sincérité est ironique. Considéré jetable, city inutile à leur croissance économique. La quatrième guerre mondiale enclenchée, ne sois pas triste, l'espoir existe. Regarde le noble mouvement zapatiste pour toutes les résistances. Compagnons, combattons tous les oubliés du monde. C'est ensemble que nous vaincrons contre leur dictature mondiale. C'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers-monde. Nous partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs, ajoute la tienne. Là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, à nous de cramer leur enclos. Résistance à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. Résistance à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. C'est la loi des grandes entreprises, leur monde une caricature. Mondialisation libérale, économie et dictature. Le tiers-monde bigoté par des traités de traite seulement. Pendant que le FMI impose son programme d'ajustement, ça privatise à tout va, entrepreneurs, politiciens dévaluent l'entreprise d'État pour la vendre aux copains. Ils se refont le monde entre eux sans même se cacher. Ils foutent des peuples et des cultures. Pour eux le monde n'est qu'un grand marché, un grand monopoly qui finira en monopole. Si leur manigance y a compris, alors méfie-toi d'un Interpol. Les droits de l'homme comme les contes de fées, c'est loin qu'en Babylone qui ferme ta gueule et obéit. C'est l'OMC qui fait ses lois, tiens. Nous sommes que des statistiques ou des gentils esclaves. Fais gaffe à l'accident, c'est trop fort et trop vrai, tu t'exclames. Arrive le plus grand génocide ou le plus grand des désordres quand une civilisation se dresse. Elle veut exterminer les autres. Contre leur dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers-monde. Partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs, ajoute la tienne. Là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, à nous de cramer leur enclos. Babylone, Babylone, entends-tu la colère monte, les oubliés de l'Occident et les oubliés du tiers-monde. Babylone, Babylone, tu nous as dit c'est marche ou crève, alors on marche ensemble contre toi pour faire valoir nos rêves. Babylone, Babylone, tu voudrais voir notre déclin, que nos idéaux partent en éclats, mais méfie-toi car on est plein. Babylone, Babylone, la fin est proche, compte sur nous pour danser sur tes cendres quand ton règne finira en résistance.
La matinale estivale sur RCN.
Une matinale estivale intitulée « Les musiques, trois petits points apprenantes » car cette matinale est largement inspirée de l'émission excellente de Lionel Courchénou, « Dialectique » qui a été diffusée en octobre 2022.
Aujourd'hui, on est en lutte, comme ce joli bouquin écrit notamment par Étienne Augry, le carnet des chants. Et dans ce carnet de chants, il y a ce morceau hein, de Kenny Arcana, Jeunesse du monde, résistance. Pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Je pense que si on avait un carnet de chants sans Kenny Arcana, ça n'aurait pas de sens. Moi, je me suis battu auprès de mes camarades pour qu'elle y soit, malgré voilà, son côté un petit peu parfois manquant de nuance. Elle le dit elle-même dans un autre morceau. Elle dit « Je n'ai vu que les violences du système, donc excuse mon manque de nuance. » Voilà, c'est un feu d'artifice, Kenny Arcana. C'est un... c'est un engagement sans faille qu'on peut parfois trouver excessif ou critiquer, mais elle a véritablement peut-être de par son histoire, de par son expérience, elle a une vie extrêmement compliquée depuis l'Argentine, le pays de son père. Elle fait d'autres chansons où elle explique aussi cette situation là. Donc elle a quelque chose à dire. Comme beaucoup de chanteurs et comme beaucoup de rappeurs en particulier, elle a quelque chose à dire sur notre société en pointant ce qui va pas. On entend un peu dans la chanson ou dans cet album de 2006, on entend beaucoup d'extraits sonores des forums mondiaux, de ce qu'on appelait l'altermondialisme. Et pour le coup, ça c'est aussi une matière intéressante à travailler avec les élèves, montrer comment on peut être indigné. Voilà, il y a aussi d'autres chansons qu'elle a faites. Indignados en particulier, La rage du peuple.
L'Arabia
del Pueblo. C'était un vrai dilemme pour moi de choisir une parmi ces chansons-là. Ça aurait pu être Indignados ou La rage du peuple. Et finalement, c'est celle-là parce que je pense que c'est intéressant aussi. Il y a beaucoup de références à l'OMC, au FMI, donc ça permet aussi de creuser ces aspects-là.
C'est rare aujourd'hui d'entendre des rappeurs parler concrètement comme ça de capitalisme, de néolibéralisme. Et c'est vrai que Kenny Arcana, elle a toujours été au front sur ces sujets-là. Et j'allais te demander comment se fait justement le choix d'une chanson quand tu dois choisir une seule chanson par artiste et qu'il y a plusieurs chansons qui se valent parce que l'artiste est assez régulier dans ses performances.
C'est compliqué et pour Kenny Arcana, c'est vraiment celle pour laquelle j'ai le plus de mal. Pour d'autres, c'était évident parce que c'est une chanson qui ressort dans l'œuvre d'un artiste. Elle, en fait, c'est tous ses albums et toutes ses mixtapes sont vraiment imprégnés de ces combats-là. Donc, à un moment donné, il y a l'aspect musical aussi qui compte. Et ce morceau-là, il entraîne bien. Il y en a d'autres qui sont plus musicaux. Parfois, elle est un peu plus agréable à écouter dans le sens musical. Là, je trouvais qu'il y avait une sorte de compromis un petit peu entre ces deux aspects-là. Un message très fort, résistance, un message très clair et en même temps, un vrai morceau de hip-hop sur lequel on a envie de se laisser emporter, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand on a commencé à établir notre liste, on avait probablement 50 morceaux. Moi, je voulais du hip-hop parce que c'est un peu ma spécialité dans l'équipe. Et j'aime beaucoup Gaël Faye, par exemple.
Bien sûr, il y a
quelques morceaux qui en fait, tu as raison, le hip-hop mainstream, on va dire, porte pas forcément un message de lutte, mais il y a quelques rappeurs ou rappeuses qui ont vraiment ce souci-là, qui connaissent le pouvoir des mots, qui savent le pouvoir qu'ils ont aussi sur ceux qui les écoutent. Et je pense que Gaël Faye, de ce point de vue-là, il est vraiment exemplaire. Je pense à un morceau en particulier qui s'appelle Bye, qui est pas dans son dernier projet, mais qui décrit le monde et qui ne se résigne pas. Et je pense que on le sent évidemment chez Kenny Arcana, mais Gaël Faye, à sa manière, le fait aussi très bien.
La Kenny Arcana vient aussi une fois de plus là conforter la place des femmes dans les luttes et probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles elle apparaît au-delà de ton attrait pour sa musique. Il y a aussi cet aspect-là qui est important.
Oui, même si je suis pas sûr qu'elle se dirait féministe. Je renvoie aux travaux qui ont été faits sur cette question-là. On cite à la fin, on voulait pas faire une biblio trop longue, mais je pense en particulier à un ouvrage il y a l'ouvrage de Sylvain Berthaud sur le rap féminin, mais je pensais à Bettina Guillot, Pas là pour plaire, portrait de rappeuse. Et elle développe un peu cette question-là de la place des femmes dans le rap et la question du féminisme. C'est-à-dire qu'on peut être femme et vraiment avoir sa place. Et Kenny Arcana, tout en ayant ce créneau particulier, elle est reconnue dans le game comme ayant toute sa place, mais elle utilise ce terme-là. Elle ne se dit pas féministe, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas à sa manière. Mais effectivement,
donc là, ne revendique pas.
Elle revendique pas ouvertement son
appartenance au féminisme. On va passer à une autre chanson. C'est Godin de Moses, une chanson qui a été maintes et maintes fois reprise. Là aussi, pourquoi le choix de cette chanson? Et puis en sous-titre, Laisse pas traîner ton peuple. Sûrement un clin d'œil à, à NTM.
C'est forcément un clin d'œil. Alors, c'est Laisse pas traîner mon peuple, en fait.
Ouais, Laisse pas traîner mon peuple.
Effectivement, c'est un clin d'œil à Laisse pas traîner ton fils. Mmh. Et puis là, c'est plutôt pour reprendre l'idée de ce dialogue entre Moïse et le pharaon. Donc, c'est Laisse pas traîner mon peuple. Bon, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. C'est un sous-titre. Mais pourquoi Go Down Moses? Je pense que il était évident que dans ces chants de lutte, on devait avoir aussi un spiritual, les chants de lutte des Afro-Américains au 19e siècle. Celui-ci, il a passé l'épreuve du temps avec des transformations intéressantes, on pourra peut-être y revenir, mais il s'imposait de lui-même comme le chant de lutte par excellence au 19e siècle pour les Afro-Américains en situation d'esclavage.
Il y a Set Me Free, Wade in the Water, et il y a même pour les chants post-période d'esclavage, il y a Strange Fruit, notamment, qui a été interprété par Billie Holiday, et ensuite par Nina Simone, et puis par plein de soul man ou soul girl par la suite. Là aussi, ça a dû être un déchirement de choisir une seule chanson pour parler de ce sujet de l'esclavage et de la condition des Noirs américains.
Mm-hmm. Alors, bien sûr, et là, comme d'habitude, c'est des discussions, c'est un compromis. Ce thème-là de la lutte des Afro-Américains en musique, c'est un des thèmes qu'on développe le plus sur le blog. En particulier, mon camarade Julien Blottière, il a une vraie connaissance intime et ça fait des années qu'on travaille là-dessus, et lui en particulier. Ces titres que tu évoques, Strange Fruit ou d'autres, qui correspondent à des étapes différentes dans cette lutte. Et nous, ce qui nous a intéressé ici, c'est de revenir à un moment fondateur, un moment où faire de la musique ou chanter Go Down Moses, c'est prendre des risques, parce que y a des messages codés qui sont envoyés par cette musique. C'est aussi l'un des intérêts, c'est que quand on l'entend au 19e siècle, si on veut s'enfuir, si on veut emprunter l'Underground Railroad, on va avoir des indications dans ces chants. Tu as parlé de Wade in the Water. Wade in the Water, c'est aussi une indication que vaut mieux de temps en temps aller dans l'eau pour que les chiens qui te poursuivent quand t'es un esclave en fuite ne puissent pas perdre ta trace. Donc on a follow the drinking gourd. Tu suis la constellation là que tu vois et elle t'indique le nord. Il y a plein de références comme ça. Canaan, c'est le Canada. Le Jourdain, c'est la rivière Ohio. Donc c'est une carte aussi, c'est un guide à l'évasion. Donc tout ça, c'est une musique qui n'est pas juste passer du bon temps ensemble. C'est vraiment, ça correspond à quelque chose.
Alors pour les non-initiés, on va essayer de vulgariser un peu. Qu'est-ce que c'est que ces work songs ou ces Negro spirituals? Alors tu le disais, ce sont des morceaux que les esclaves entonnent pendant qu'ils travaillent la plupart du temps, et les esclavagistes les laissent chanter parce que quand ils chantent, ils travaillent plus vite. Donc, ils se disent, on les chanter, mais comme tu l'as dit, il y a des messages codés.
Alors, toute la difficulté, alors tu parles des work songs, en fait, le chant est quelque chose d'habituel. Pourquoi les Blancs laissent les Noirs chanter? Parce qu'ils ils sont aperçus que ça marche mieux, ils travaillent mieux quand ils chantent, donc on ne va pas les empêcher de chanter ça. Alors, on fait attention quand même à ce qu'ils chantent, on fait attention... par exemple, on a le tambour, les tambours sont interdits. Le tambour, c'est un moyen de communication, donc on évite ce genre de choses. On fait attention aux paroles. Les esclaves comprennent tous ces interdits, intègrent beaucoup d'éléments et cherchent les interstices. Et dans ces interstices, ils proposent ce récit alternatif que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils transmettent, ils continuent à transmettre quelque part d'où ils viennent et ils font passer ce message. Enfin, si dans les spirituals, la thématique principale, c'est les Hébreux esclaves en Égypte, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit de chanter je suis un esclave et je voudrais être libre. Par contre, la Bible, c'est le texte que leur a proposé le Blanc. Je peux l'utiliser, vous êtes d'accord? Donc si je veux trouver un thème qui va me parler, c'est Moïse. Le vrai personnage important, c'est pas Jésus. Pour les premières églises noires du 19e siècle, c'est véritablement Moïse. On parle souvent de Moïse du peuple noir. On l'a souvent utilisé pour différents personnages au 19e, au 20e siècle. C'est une manière de de s'engouffrer dans les espaces, dans les interstices que le blanc ne parvient pas à contrôler. Et ça, c'est le rôle fondamental de la musique. Et puis, pour revenir à ta question sur aussi ces différentes formes de chant, le spiritual, c'est aussi un héritier à la fois des traditions européennes de la musique religieuse, hein, et en particulier les méthodistes, les baptistes, au sein desquels les esclaves vont se convertir.
Il y a une christianisation des esclaves.
Voilà, il y a une conversion, et c'est ça qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'il y a une véritable conversion, et en même temps, on s'approprie la religion du maître pour mettre en avant des thématiques, et dans cette musique, il y a aussi la dimension improvisée du chant. Là, c'est figé, parce que voilà, ça a été transmis, mais il y a une grande improvisation. Et puis, il y a cette tradition qu'on voit bien dans le chant du call and response. Une personne qui parle ou qui chante, et puis l'assemblée, la foule qui lui répond. Et ça c'est très important dans la musique afro-américaine, et on le retrouvera dans d'autres styles, mais c'est vraiment là que ça s'enracine.
Et cette réponse de chorale, elle ne se retrouve pas tout le temps dans les diverses interprétations qu'on peut avoir de ce morceau, notamment Go Down Moses. On va écouter la version de Louis Armstrong sur RCN 90.7.
Thank you.
La matinale estivale sur RCN.
Matinale coucou, donc parce qu'elle est largement inspirée de l'émission de Lionel Courchinou de Dialectique d'octobre 2022 et que nous avons intitulée « Les musiques apprenantes ».
Go Down Moses de Louis Armstrong et on est sur RCN 90.7 avec Étienne Augry, toujours pour ce livre « En lutte, carnet de chant » paru le 29 septembre dernier. Il est disponible partout ?
Il est disponible dans toutes les bonnes librairies et si on ne le trouve pas, il vaut mieux aller commander auprès de son libraire.
Voilà.
On peut commander en ligne, mais c'est vrai que c'est important aussi de passer par les librairies.
Exactement, n'hésitez pas à faire vivre vos libraires hein, de proximité. Voilà, ce livre En lutte, où on retrouve ce morceau Go Down Moses qui a eu tant de reprises. Il y a eu une version française, la fameuse de Claude Nougaro, Armstrong, Je ne suis pas noir. Et puis cette version-là où on retrouve quand même le canon, les chœurs qui répondent à Armstrong comme le veut la tradition. Et pour rester aux États-Unis, il y a un morceau qui s'appelle Fight the Power de Public Enemy. Pourquoi ce choix ?
C'est pareil, ça. Je vois pas comment on aurait pu s'en passer. D'une part, de Public Enemy qui incarne véritablement quelque chose au cours des années 80. Et puis ce morceau en particulier, enfin, Public Enemy est très politique en permanence. En particulier Chuck D. Heureusement, il y a Flavor Flav de temps en temps qui est là pour faire le clown, pour alléger un petit peu l'atmosphère. Mais c'est véritablement la deuxième moitié des années 80, il se passe beaucoup de choses dans le hip-hop. Et il se passe en particulier une certaine prise de conscience du pouvoir de cette musique pour dénoncer des injustices. On est dans l'Amérique de Reagan. Reagan a été réélu en 84, donc il est président à ce moment-là. Et la situation des Noirs, des Afro-Américains aux États-Unis est toujours très compliquée. Hein. On a vu que c'était pas nouveau. C'est un moment où Public Enemy se rend compte que les promesses des années 60, tout ce mouvement des droits civiques qui a permis des avancées, eh bien, ces promesses-là n'ont pas été véritablement tenues. Et donc, d'où la rage. Les prophètes de la rage, ce sont eux qui s'expriment. Et voilà, il nous a semblé important aussi. Alors, on a beaucoup de chansons qui parlent de la France, mais il nous a paru important aussi d'évoquer cette question-là au travers de ce morceau-là qui est en fait, au départ, hein, une commande de Spike Lee pour son film.
Et c'est vrai que pour contextualiser, on est dans une Amérique qui est dans une dualité. Alors tu l'évoquais, on sort des mouvements des droits civiques, des combats de Malcolm X, des combats pour pouvoir accéder au vote, des combats anti-ségrégation. Et en même temps, il y a la naissance de premiers labels noirs, les labels de Berry Gordy. On a des noirs américains qui s'enrichissent et donc qui prônent une forme de capitalisme, d'hédonisme qu'on retrouve aussi dans le rap. Et donc, cette Amérique-là est dans une dualité entre l'espoir créé par ces mouvements-là et en même temps le fait de voir qu'on n'atteint pas ce que c'est une petite partie de la population arrive à atteindre, les transfuges de classe, cette richesse. Donc, on est dans une Amérique ambivalente. Donc, on a d'un côté des rappeurs qui vont prôner la vie de gangsters qui fantasment, notamment sur la côte ouest, des Tupac ou ce genre de rappeurs. Et puis, d'autres comme Public Enemy qui sont un peu avant, hein, c'est pas la même époque, mais qui vont plutôt aller sur des terrains un peu plus politiques.
Oui, et tu as raison de souligner que c'est, voilà, NWA, c'est la même époque. Alors après, effectivement, ils mettent en avant d'autres choses, peut-être un peu matérialistes, rap de droite, comme dirait Ayam. En même temps, je pense qu'ils portent aussi à leur manière un véritable message, qui est moins élaboré, moins politisé que celui de Chuck D. Chuck D, il est né en 60 et il est un petit peu entre plusieurs générations et ils prennent conscience de ça. Et en fait, Tu parlais de ségrégation. Oui, la ségrégation a été abolie, mais ils se confrontent dans leur jeunesse à la ségrégation en matière de logement, par exemple. Mmh. Et donc, en fait, c'est comme si on leur disait, voilà, bon, ok, c'est les classes, c'est l'histoire des classes moyennes noires, en fait. Mmh. Chuck D, c'est pas, il vient pas du ghetto, il vient des classes moyennes noires qui, en fait, ont connu une certaine ascension, et à qui qu'on renvoie finalement à la couleur de leur peau, alors qu'ils ont aspiré, leurs parents ont eu ce rêve de la banlieue, ils ont connu un certain embourgeoisement, mais on les renvoie toujours à cette difficulté-là. Et puis, Public Enemy occupe aussi le terrain qui est disponible. Donc après, voilà, la génération des années 60, il y a eu les Black Panthers, il y a eu aussi le mouvement Nation of Islam. Donc, il y a des personnes qui ont tenté des choses.
Et qui a un lien avec la musique, hein, avec le festival Waxtax qui a découlé de tout ça, hein, le Black Woodstock, comme on disait.
C'est ça.
Toujours la musique en toile de fond.
Là, c'est 72, le festival Waxtax. Et effectivement, alors, moins dans ce morceau et dans cet album, mais il y a un autre album de Public Enemy dans lequel il y a des dizaines de samples de morceaux de ce concert mythique de Waxtax. En tout cas, en 89, voilà, peut-être qu'on est à un tournant, et peut-être que Public Enemy après 89 sera jamais aussi bon. Je pense que le groupe est en train d'exploser en plein vol. Voilà, on a Professeur Griff qui commence qui a jamais véritablement contrôlé, mais qui c'est peut-être l'apogée de ce groupe-là, avec ce message politique très fort. Et ils incarnent véritablement quelque chose qui bien sûr fait peur. Et Chuck D sait très bien qu'il fait peur, mais il joue de ça et il utilise ce pouvoir-là.
Il y aurait pu avoir, en parlant de message, justement, The Message aussi, qui est
Grandmaster Flash.
Grandmaster Flash, qui est aussi une hymne en termes de lutte pour les Noirs américains.
Il était dans la playlist. Voilà, moi j'en ai proposé plein. Il était dans la playlist. C'est le premier véritable morceau engagé en 82.
Qui explose au niveau mondial, du moins.
C'est le premier qui véritablement parle d'une réalité. C'est la vie quotidienne, mais c'est sordide et c'est aussi c'est l'Amérique de Reagan, c'est le crack, c'est tout ça.
Alors merci beaucoup Étienne Augrier d'avoir accepté notre invitation.
Merci à toi.
C'était un plaisir de parler de lutte. Si on avait un mot de la fin pour conclure sur ce bouquin qui est disponible chez les meilleurs libraires et puis un peu partout.
Le mot de la fin, ça pourrait être le sous-titre de cette notice, Le pouvoir est au bout du mic. C'est-à-dire que la musique permet beaucoup de choses, et elle permet de porter ses luttes. Alors elle peut pas tout, et parfois elle permet aussi de consoler des échecs, et elle permet je pense au temps des cerises. Voilà, une chanson qui n'a rien de révolutionnaire en apparence, mais qui permet d'évoquer ce combat perdu de la Commune de Paris, avec à travers l'évocation du temps fugace des cerises qu'on regrette, mais ça permet de peut-être de prolonger ça jusqu'à la génération suivante qui s'en empare à sa manière.
Très bien, merci beaucoup. Et on va se quitter avec le morceau de Public Enemy, Fight the Power, sur RCN 90.7.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Alors tout d'abord, bien sûr, un grand merci à Lionel Courchinou, l'animateur de cette émission de dialectique que nous avons utilisée. Quand on dit utiliser, il y a le mot utile, et nous espérons justement que cette matinale apprenante vous sera notamment utile, et pourquoi pas pour votre culture générale ou peut-être pour la rentrée scolaire future. Donc, d'une part, cette matinale estivale, donc sous l'appellation « Les musiques, trois petits points apprenantes », sont disponibles, ainsi que le dialectique dont elle s'est largement inspirée, dialectique du 14 octobre 2022, sont consultables en podcast sur le www.rcn-radio.org. Et également, bien entendu, un grand merci à Pierre Baudot pour cette mise en onde de cette matinale estivale, les musiques apprenantes. Belle journée à vous.
Fight the powers that be.